Décryptage, Marie Cazadebet.
Le 19e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert hier, mercredi à Pékin. Depuis, plus de 2000 délégués du PCC sont réunis à huis clos. C'est un moment crucial pour la politique chinoise. Un rendez-vous quinquennal qui définit les grandes orientations des 5 années à venir. Et c'est bien sûr Xi Jinping, le président chinois, qui a ouvert le congrès avec un discours fleuve, plus de 3 heures.
À l'heure actuelle, la situation connaît tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des changements profonds et complexes. Le développement de notre pays se trouve dans une importante période stratégique dont les perspectives sont rayonnantes, tout en étant confronté à des défis très sérieux.
Un discours en forme de bilan de son premier mandat et de promesses pour le deuxième qu'il devrait entamer au terme de ce 19e congrès. Il entend faire entrer son pays dans une nouvelle ère et sa pensée dans la charte du parti. Quelles sont les ambitions de Xi Jinping? Comment est-il devenu en 5 ans aussi puissant? Quels sont les enjeux de ce congrès? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Alice Ekman.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes chercheur responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Nous sommes aussi avec Eike Schmidt, notre correspondante à Pékin. Bonsoir Eike.
Bonsoir Marie.
Vous avez interrogé de nombreux Chinois sur l'image qu'ils ont de Xi Jinping, qui s'apprête donc à entamer un second mandat.
Il a bien fait de lutter contre la corruption au sein du Parti communiste et de prendre conscience de la crise à l'intérieur du parti. Dès que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, j'ai eu l'impression que la Chine a été de plus en plus forte. Il a suscité chez nous un fort sentiment de fierté nationale. Il est très populaire.
Eike, est-ce que ce sont des propos que l'on entend souvent dans la bouche des Chinois ?
Oui, c'est justement cette aura dont jouit Xi Jinping auprès de nombreux Chinois. Pour eux, Xi est premièrement l'homme qui a lutté avec succès contre la corruption et deuxièmement, c'est lui qui promet de faire de la Chine un pays qui compte dans le monde. C'est justement sur ces deux grands thèmes que le président a su bâtir sa popularité. Il l'a très bien compris en arrivant au pouvoir en 2012. Pour gagner la confiance des Chinois, il fallait d'abord s'attaquer à la corruption. Ce fléau qui minait le parti et donc le régime en place. Il est vrai que ce nettoyage au sein de ses propres rangs a permis à Xi non seulement d'écarter ses rivaux, mais aussi et surtout de réconcilier une partie des Chinois avec leurs dirigeants. L'autre point que l'étudiante Xiao Feng a évoqué, c'est cette nouvelle fierté nationale pour une Chine devenue plus forte sous Xi Jinping. Comme beaucoup de gens, elle veut croire en ce rêve chinois de la renaissance de la nation, ce rêve d'une grandeur retrouvée que Xi Jinping ne cesse de mettre en avant, à grand renfort bien sûr d'une propagande à laquelle personne n'échappe.
Alors une propagande avec qui véhicule quelle image de Xi?
Alors, c'est l'image d'un président auquel Londres, Washington, Paris et bien d'autres capitales déroulent le tapis rouge, qui est pris au sérieux sur la scène internationale et qui multiplie les initiatives diplomatiques et les défilés militaires. Un dirigeant qui n'hésite pas à montrer ses muscles lors de conflits avec les pays voisins et qui affirme haut et fort que la Chine est aujourd'hui prête à vaincre tout envahisseur. Mais la propagande aime aussi parler de Xi comme un homme proche du peuple qui a labouré la terre et qui connaît les peines des paysans parce qu'il a vécu à leur côté dans une région très pauvre pour être rééduqué. C'était pendant la révolution culturelle sous Mao. Alors, à l'approche du congrès, des livres et des documentaires ont justement fait l'éloge de cette période de sa vie. En revanche, tout est fait pour gommer l'origine de Xi Jinping, ce fils d'un haut dirigeant du parti qui a grandi dans les quartiers aisés de la capitale et qui, en réalité, fait partie des princes rouges. Ce sont ces descendants de l'aristocratie communiste. Ces princes rouges sont particulièrement mal aimés dans la population, car connus pour s'être enrichis grâce à leur père puissant et influent.
Merci Eike Schmidt, correspondante de RFI à Pékin. Alice Ekman, dans son discours, Xi Jinping a d'abord donc dressé un bilan de son premier mandat. La lutte contre la corruption que les Chinois évoquent souvent est vraiment à mettre à son actif.
Alors, Tout dépend de la définition qu'on donne à la lutte contre la corruption. Ce mouvement a été lancé au début de son mandat, donc il y a 5 ans. Il visait en premier lieu les entreprises, dans le cas des entreprises d'État. De plus en plus, il a été étendu à une diversité d'institutions. Et aujourd'hui, on voit 2 développements. Le premier, c'est une extension de la campagne anticorruption vers l'inspection politique et idéologique, qui touche par exemple les universités, qui touche de nombreux ministères, qui touche une diversité d'institutions publiques ou semi-publiques. Et on voit également une autre évolution, c'est celle de l'internationalisation de la campagne pour Xi Jinping. L'enjeu est d'aller chercher à l'étranger, les cadres considérés comme corrompus par le parti. Alors, il y a différentes interprétations, mais on voit quand même aujourd'hui que les méthodes qui sont mises en place pour appliquer cette campagne sont très strictes, très sévères, puisqu'il y a la commission de la discipline qui fait peur aux cadres du parti. Potentiellement, tout le monde est coupable, parce que des pratiques qui étaient tolérées auparavant, avant le lancement de la campagne anticorruption, sont aujourd'hui susceptibles d'être avancées pour justifier la mise sous enquête d'un cadre corrompu. La campagne est rétroactive. Elle est basée en partie sur un processus de dénonciation, donc utilisant des plateformes en ligne qui ont été créées par cette commission de la discipline. Elle active aussi des outils comme la surveillance mutuelle, puisque Xi Jinping a appelé, après le 4e plénum, il y a plus d'un an, à renforcer cette surveillance entre les cadres. Et Xi Jinping aussi avait appelé à développer des séances de critique et d'autocritique au sein du parti. Donc tout ça pour vous dire que les méthodes mises en place, indépendamment de l'analyse qu'on pense sur le fond de la campagne, les méthodes mises en place font penser dans une certaine mesure à des méthodes qu'on a observées lors de mouvements politiques qui avaient été mis en place par Mao, sans faire de raccourcis trop directs.
Il en a fait beaucoup de publicité. C'est vrai que c'est revenu beaucoup dans son discours, et même on entendra un peu plus tard d'autres Chinois. C'est souvent mis en avant aussi par le Chinois rencontré dans la rue. Ça veut dire que ça a vraiment marqué les esprits. Avec Schmitt, c'est vrai, parler aussi de propagande, c'est quelque chose qu'il met beaucoup en avant.
Ça a marqué les esprits différemment. Il y a une dimension de communication politique indéniable. Cette campagne contribue à redorer le blason du parti, l'image du parti vis-à-vis d'une partie des populations, notamment la partie des populations la moins aisée, qui considérait justement qu'il y avait trop de cadres entre guillemets pourris, et donc il était temps de faire quelque chose. Donc vis-à-vis d'une partie des populations, cette campagne est très bienvenue. Par contre, au sein du parti, cette campagne est perçue de manière totalement différente, vous l'imaginez. Elle a touché plus de 1 300 000 personnes. En tout cas, c'est selon les déclarations officielles qui parlent de punition. Donc, il y a 1 300 000 personnes punies. Après, les punitions sont diverses. Ça peut aller de simple destitution d'une position, une personne renvoyée, jusqu'à l'emprisonnement, parfois hâtif. Donc, il y a aujourd'hui un sentiment de peur qui est notable au sein du parti. En tout cas, l'ambiance au sein de certaines institutions a évolué parce que, on risque plus à prendre des initiatives, par exemple, dans le cadre de la campagne anticorruption, jusqu'où est la limite. Et donc, en conséquence, cette campagne est importante à analyser. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'elle a aussi des conséquences en termes économiques ou en termes de développement de certains projets dans les provinces, parce que, par exemple, les cadres provinciaux ont parfois préfèrent ne pas prendre de risques, ne pas prendre des initiatives plutôt qu'éventuellement être mis sur la sellette.
Ça paralyse un peu toute la société.
Oui, on peut le dire. Aujourd'hui, on a assez d'éléments pour dire que ça paralyse l'avancement de certains projets, notamment des projets internationaux, certains projets d'investissement d'entreprises étrangères dans des provinces reculées. C'est une réalité. Une chose est sûre à la lecture à l'analyse précise du discours de Xi Jinping d'hier, donc discours fleuve, on est sûr que cette campagne va continuer.
Oui.
Parce qu'il explique clairement que la lutte contre la corruption ne se terminera jamais. C'est les termes qu'il utilise, si on les traduit en français. Il appelle à la création d'une plateforme pour rapporter les faits de corruption et aussi aussi, il faut ramener dans le pays tous ceux qui se sont évadés à l'étranger. Donc ça, cette évasion à l'étranger pose problème parce qu'il y a des accords avec certains pays d'extradition. Avec d'autres pays, il n'y en a pas. Alors, les méthodes, on va dire, de rapatriement sont différentes, mais ça pose parfois des incidents diplomatiques.
Pourquoi ça prend autant d'importance? Est-ce que c'est vraiment le point que vous retenez du bilan qu'il a dressé de son premier mandat, ou il y a d'autres choses qui vous paraissent aussi importantes?
L'analyse de cette campagne est intéressante parce qu'elle annonce une forme de continuité politique, on peut le dire aujourd'hui. Il n'y aura pas, à mon avis, de changement de cap majeur en termes de politique intérieure. Mmh. Elle annonce aussi le fait que le parti reste extrêmement puissant, et c'est celui qui va continuer à superviser les cadres. C'est un parti qui est de plus en plus sous contrôle, et en même temps c'est un parti qui gagne en influence. Il a toujours été très important.
Et là aussi, Xi Jinping assume vraiment le fait que le parti communiste doit tout contrôler. Il le dit lui-même, donc, que vraiment la Chine doit passer par le parti communiste.
Oui, il le dit explicitement. C'est pour ça que c'est intéressant de lire Xi Jinping dans le texte, parce que finalement, il est assez clair. Il explique que, il rappelle que les principes du socialisme à caractéristiques chinoises sont les suivants. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer trois. Préserver les valeurs socialistes fondamentales, préserver le leadership absolu du parti sur l'ensemble des forces du peuple, et assurer le leadership du parti sur l'ensemble du travail mené. Donc on voit bien là que le parti reste au centre. Mmh. C'est pour ça aussi, analyser la Chine d'aujourd'hui, c'est analyser le parti en tant qu'institution, en tant que bureaucratie extrêmement large, en tant
On aura l'occasion d'y revenir évidemment aussi au travers des enjeux de ce 19e congrès. Xi Jinping s'est aussi projeté, puisqu'a priori, donc à la fin du congrès, il pourra entamer un deuxième mandat. Il promet une nouvelle ère pour la Chine. Qu'est-ce qu'il entend à travers cette expression ?
Alors, il y a plusieurs angles d'analyse. Il y a l'angle économique. L'économie chinoise est extrêmement planifiée, donc il annonce des deadlines, des dates butoirs pour la planification économique. Alors, c'est d'ici jusqu'à 2035, la Chine sortira totalement de la pauvreté et aura atteint une forme de modernisation de base. Et ensuite,
c'est ce qu'il appelle la prospérité
moyenne prospérité. Donc, voilà,
société de petite prospérité.
Oui, bon, ça c'est aussi un élément de langage à destination de la population urbaine qui n'a pas joui directement des fruits de la croissance, contrairement à la population population rurale, contrairement à la population urbaine qui a vraiment vu son train de vie augmenter, sa qualité de vie augmenter au fur et à mesure des 30 dernières années, enfin 35 dernières années de réforme et d'ouverture. Mais donc, il y a cette volonté vraiment de réduire la différence de développement, l'écart de développement entre les campagnes et les villes, au sein même des villes aussi, pour intégrer la population migrante, même s'il en parle peu aujourd'hui, c'est l'objectif généraux des plans quinquennaux qui sont menés jusqu'à présent. Et il parle surtout d'une nouvelle ère après 2035, où vraiment l'objectif, entre guillemets, selon les termes officiels, de renouveau de la nation sera pleinement mené, pleinement déployé. C'est-à-dire que c'est un double objectif, à la fois en termes économiques, consolider le statut de la Chine à ce moment-là en tant que première puissance économique, ouais, mais également une puissance diplomatique, une puissance géopolitique, puisque Xi Jinping souligne bien la volonté de la Chine de réorganiser non seulement la région, mais le monde en partenariat.
Alors, je vous propose justement d'écouter juste ce témoignage de Chinois, donc recueilli aussi par Heike Schmidt, qui semble avoir bien saisi cela dans le discours de Xi Jinping.
Il a lutté contre la corruption. Ses actions ont purifié le Parti communiste. De cette manière, il peut bien rendre service au peuple. Par ailleurs, la Chine est de plus en plus forte, mais nous maintenons activement la paix dans le monde, au lieu d'avoir des visées hégémoniques. La Chine assume ses fonctions en tant que grand pays. La Chine a acquis une place indispensable dans le monde.
La Chine a acquis une place indispensable dans le monde. Alice Ekman, quelle place veut Xi Jinping pour la Chine dans le monde, justement ?
Tout d'abord, il y a une place institutionnelle. La Chine considère qu'elle est sous-représentée ou pas assez représentée dans les organisations internationales existantes. Donc, elle est de plus en plus active, que ce soit aux Nations Unies, mais aussi au sein du groupe des BRICS. Mais elle crée également des nouvelles institutions, comme la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures, qu'elle a créée il y a près de 2 ans. Donc, il y a un vrai activisme institutionnel de la Chine pour pouvoir avoir davantage de marge, davantage d'espace pour défendre ses intérêts. Il y a également une dimension idéologique avec la promotion d'un modèle de développement alternatif, notamment vis-à-vis des pays en développement, en voie de développement. De plus en plus, la Chine se positionne en tant que fournisseur de solutions.
Alors là, par exemple, vous parlez des partenariats entre la Chine et l'Afrique.
Oui, par exemple, mais pas uniquement. De plus en plus, la Chine promeut ce modèle de développement alternatif vis-à-vis un nombre croissant de pays en développement, pays émergents, mais également, par exemple, certains pays européens qui ont du mal à sortir de la crise économique et financière de 2008-2009. Mmh. Vous voyez l'argument en substance, c'est celui-ci. Vous voyez les limites du système occidental libéral. Il est peu réactif, il est parfois lent, peu efficace. Il y a énormément de procédures. Vous voyez même aux États-Unis, il y a des décisions qui doivent passer par le Parlement. Nous n'avons pas ça. Nous sommes efficaces et regardez le taux de croissance. Donc c'était vraiment l'argument qui est souligné par contraste aussi avec les derniers développements, donc le Brexit, l'élection de Donald Trump, et etc. Donc ça, il y a vraiment une compétition en termes de communication, mais aussi on peut le dire une compétition idéologique qui tente à se renforcer depuis 5 ans. Il est probable qu'elle se renforcera encore, puisque aujourd'hui Xi Jinping souligne réellement que la Chine n'a pas à s'inspirer des systèmes politiques étrangers et que la démocratie socialiste, c'est le terme qu'il emploie, est finalement, in fine, le meilleur système pour assurer le bien-être du peuple.
Je voudrais qu'on en revienne aux enjeux de ce 19e congrès du Parti communiste, très suivi par les Chinois.
Je suis ce congrès. Je voudrais bien savoir qui sera dans la nouvelle équipe de dirigeants. C'est un grand événement dans la vie des Chinois. Je ne suis pas membre du Parti communiste, mais je sais que c'est sous la direction du Parti que nous avons établi la nouvelle Chine et que c'est le Parti communiste qui a développé l'économie. Le PCC doit donc garder la direction de la Chine. Il nous conduira à la prospérité et au bonheur. Xi a tellement de courage. Il est ambitieux et déterminé. Prenez la lutte contre la corruption ou le projet de la nouvelle route de la soie.
Alice Ekman, cette chinoise le soulignait, c'est en congrès que le PCC renouvelle ses instances dirigeantes. Alors quels sont les enjeux cette année lors de ce 19e congrès? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller de près?
Alors ce qu'on a fait dans les premières minutes déjà, c'est-à-dire surveiller le discours d'ouverture qui est éclairant à plusieurs égards puisqu'il donne les grandes orientations politiques et économiques qui vont être menées par la nouvelle équipe dirigeante ou l'équipe dirigeante consolidée. Plus concrètement, c'est aussi l'occasion d'effectuer des nominations. Donc, on n'a pas encore le résultat, mais donc les délégués sont réunis en ce moment à huis clos pour élire le puissant comité central qui sera composé d'environ 200 membres. Ce comité central lui-même élira un bureau politique donc du comité central. Jusqu'à présent, il était composé de 24 membres. C'est peu ou prou le nombre qu'on attend, même si le nombre exact n'est pas connu, il pourrait évoluer. Et puis, on connaîtra le comité permanent du bureau politique du comité central. Je ne sais pas si vous me suivez bien. On voit bien que c'est une bureaucratie d'influence soviétique extrêmement complexe.
Alors, au bout du compte, Xi Jinping doit entamer un deuxième mandat. Est-ce qu'il s'agit aussi vraiment d'un vote? Est-ce qu'on peut connaître, finalement, à travers ce vote, la popularité du président?
On ne peut pas dire que c'est un vote tel que nous on l'entend ici en France. C'est un processus de nomination qui est assez bien rodé. Ce qui est certain, c'est que il est entouré d'une grande opacité. C'est pour ça que je ne vais pas répondre directement à votre question pour être la plus précise et scientifique possible. Aujourd'hui, on ne sait pas, même s'il y a énormément de rumeurs qui circulent autour des nominations, on ne sait pas qui va être nommé à l'issue du congrès.
Il n'y a pas de doute, en tout cas, sur le deuxième mandat du président.
En tout cas, son discours d'ouverture indique qu'il va rester en place.
En tout cas, il a des projets, il fait des promesses, lui, en tout cas, il se projette.
Mais pour être le plus précis possible, quelles que soient les nominations, de mon point de vue, elles ne vont pas indiquer un changement de cap en termes d'orientation politique et économique. Parce que Xi Jinping a consolidé son pouvoir de telle manière au cours des 5 dernières années, donc en restructurant certaines institutions, en martelant un discours finalement qui qui imprègne les institutions qui prennent part au processus de décision politique intérieure et extérieure, on en a parlé, déployant la campagne anticorruption, et il a imprimé sa marque de telle manière qu'il pourra rester influent quelle que soit la durée de son mandat. Il faut bien se rappeler que Deng Xiaoping était lui-même influent quand il dirigeait, quand il avait quitté toutes ses fonctions, qu'il n'était plus que président de l'association de Bridge de Chine.
On comprend en tout cas qu'il faut d'abord retenir le grand discours de Xi Jinping. Merci beaucoup Alice Ekman, merci à Léonore Krenik, Emmanuel Sevin, Heike Schmidt et Jérémy Bessé.